Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Amélie Kauer de TF1 LCI et bonjour. Guillaume Broquette du Figaro. Bonjour à tous les deux. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller la ministre sur les réseaux sociaux, hashtag le grand jury. Et vos questions lui seront posées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Marlène Schiappa, vous avez officiellement changé de casquette en juillet dernier en devenant numéro 2 du ministère de l'Intérieur aux côtés de Gérald Darmanin. Certains y ont vu alors la concrétisation du « en même temps macronien ». Un homme de droite aux côtés d'une femme issue de la gauche qui ferait entendre sa différence. Sauf que jusque-là, vous faites plutôt front commun, notamment en défendant le très sulfureux article 24 de la loi Sécurité globale ou encore l'expression d'ensauvagement de la société française utilisée par Gérald Darmanin. Mais peut-être votre singularité s'exprimera-t-elle dans le texte sur le séparatisme ou confortant les principes républicains selon sa nouvelle appellation et qui sera présentée mercredi en Conseil des ministres. En charge de la citoyenneté, Marlène Schiappa, votre tâche est immense. Dans un pays plus divisé que jamais, bien loin de la promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017 d'apaiser le pays. Votre détermination, votre opiniâtreté ne sont plus à démontrer, votre efficacité peut-être, car avec une communication à tout va, une volonté assumée, vous le dites vous-même, de créer le buzz pour faire avancer vos causes, vous prenez le risque de créer votre propre rideau de fumée et de desservir votre objectif premier. Mais nous en parlerons, nous y reviendrons dans cette émission. On en vient d'abord à la manifestation d'hier et aux violences qui l'ont émaillé. 95 interpellations selon un dernier bilan et 67 policiers blessés, Amélie Kauer.
Oui, Marlène Schiappa, comment est-il possible à nouveau un samedi à Paris de voir 400 casseurs qui brûlent voitures ou banques?
Ça, c'est une très bonne question que vous me posez, mais pardon, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour y apporter des réponses. Le ministère de l'Intérieur fait tout ce qui est en son pouvoir et maintient l'ordre public. Il y a eu un engagement très fort des policiers et des gendarmes. Moi, je voudrais d'ailleurs à cette occasion adresser mes voeux de rétablissement aux 67 policiers, policières et gendarmes qui ont été blessés, parfois gravement, au cours de ces manifestations et saluer leur engagement pour maintenir la paix et l'ordre public.
La semaine dernière, il y avait déjà eu des black blocs et déjà des réactions politiques. Marine Le Pen, par exemple, a parlé de complaisance, notamment de la part du gouvernement vis-à-vis des black blocs. Vous répondez quoi à ceux qui vont redire la même chose aujourd'hui?
En fait, oui, ils redisent la même chose parce qu'on est en fait face à des oppositions qui répètent la même chose. Donc on sait très bien que à l'extrême gauche, on va dire que le gouvernement est trop dur, qu'il y a un maintien de l'ordre qui est trop violent, trop difficile, trop sévère, etc. Et à l'extrême droite, on va dire qu'il y a des black blocs et c'est scandaleux. Et oui, bien évidemment, le gouvernement travaille contre les black blocs. Les black blocs, c'est un phénomène qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années à l'étranger et en France. Il y a un travail de renseignement particulièrement souterrain qui se fait pour démanteler ce type de réseau et un travail
visiblement inefficace, ce travail.
Non, je ne vais pas laisser dire qu'il soit inefficace. C'est un travail très fort, mais vous savez, les manifestations, elles ont évolué. Pardon, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps, quand j'étais petite, dans les années 80, dans des manifs. Et dans les manifs dans lesquels j'allais avec mes parents, il y avait des services d'ordre qui étaient organisés. Et il y avait des gens qui faisaient des rideaux, qui se tenaient les coudes et qui empêchaient des personnes extérieures de rentrer dans les manifestations. La particularité depuis quelques années des manifestations, c'est qu'elles ne sont plus organisées. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Il y a de moins en moins de services d'ordre dans les manifestations. Il est de plus en plus difficile d'identifier des organisateurs.
Là, on ne comprend pas. C'est un peu l'argument qui nous est...
C'est pas une question de faute. Je vous explique le contexte. En fait, le contexte d'organisation des manifestations, il n'est pas le même en 2020 qu'en 1992. Et quand il n'y a pas de service d'ordre, ça veut dire que la police se retrouve à être à la fois le service d'ordre à la place des organisateurs, mais aussi la police qui maintient l'ordre et à laquelle on va reprocher parfois d'être trop dur et parfois de ne pas être assez dur. Donc c'est une tâche difficile et je ne veux pas les laisser mettre en cause ici.
Guillaume, justement, les policiers font l'objet de beaucoup de critiques en ce moment, d'après certains syndicats, même des critiques du président de la République infondées. Est-ce qu'il aurait pu y avoir une forme de démotivation chez eux qui aurait expliqué peut-être des réactions moindres hier pour essayer de faire arrêter les, les exactions des Black Blocs?
Non, je crois vraiment pas. Je pense que, pardon de le dire comme ça, mais je trouve dans le débat public que la police a bon dos. Et honnêtement, vu mon parcours et vu mes origines politiques, personne ne peut me reprocher d'être, quoi qu'il en soit, de façon inconditionnelle, un soutien des forces de l'ordre. Mais moi, quand j'entends le débat public et quand je vois ce qu'ils font au quotidien, il y a un écart, une dichotomie qui est énorme. Au quotidien, les policiers, les gendarmes, ce sont ceux qui s'engagent pour protéger des gens, qui sauvent des enfants de violences intrafamiliales, qui s'engagent face aux violences conjugales. C'est ce qu'ils ont fait toute la semaine dernière autour du 25 novembre. Moi, j'ai réuni le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, parce que nous avons ouvert et lancé des recrutements en masse pour qu'il y ait 2 intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries par département. Ça sont des actions concrètes de la police qui protège et dont on parle très peu.
Amélie Carouer.
Reste qu'ils sont très en colère, notamment après les propos du président de la République chez nos confrères de Brut. Le président de la République qui a dit qu'il n'avait pas de problème à répéter le terme de violence policière. Vous n'avez pas de problème, vous, à répéter le terme de violence policière, Marlène Schiappa?
D'abord, moi, je ne dirais pas ils sont en colère. J'observe qu'il y a 2 syndicats qui se sont exprimés et 3. Ils ont parfaitement, ouais. Ou 3, et ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. On est en démocratie, il est sain que les policiers soient syndiqués et qu'il y ait des syndicats qui puissent exprimer et défendre le travail des policiers.
Ils appellent notamment à la grève du contrôle d'identité, notamment à partir de lundi, mais reste que sur les termes de violence policière. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas peur de répéter ces termes,
Marlène Schiappa? Mais ce n'est pas une question de peur ou pas peur. Et je veux dire violence policière, il y aura une dépêche AFP. Marlène Schiappa dit qu'il y a des violences policières. C'est pas le sujet. Le sujet, quel est-il? C'est que quand on parle en général de violence policière, on dit ça en général dans le monde quand il y a des États qui ont une police violente structurellement, qui fait des arrestations arbitraires, etc., etc. Ça n'est pas le cas en France. En France, il y a un usage légitime de la force pour garder la paix et pour maintenir l'ordre du côté des forces publiques. Mais maintenant, oui, il y a aussi des violences inadmissibles, comme celle qu'on a vue lors de l'évacuation du campement de tentes d'exilés Place de la République, ou comme l'agression du producteur pour laquelle tout le monde s'est absolument indigné.
Violence
et quand ça arrive, ça doit être
proportionné, Marlène Schiappa. Et en l'occurrence,
exactement.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est que certains de nos concitoyens estiment qu'elle est disproportionnée.
Et quand
est-ce que
ça...
c'est votre avis?
Ça dépend des fois. Et c'est pour ça que je vous dis, quand ça arrive, et je viens de vous donner 2 exemples concrets, quand ça arrive, il faut qu'il y ait des sanctions très fermes vis-à-vis de ceux qui commettent ces agressions, ces violences. Moi, je l'ai dit, ce n'est pas ma police. La police qui fait un croche-pied à un homme SDF exilé qui dort dehors, ce n'est pas la police que j'ai envie de défendre. La police que je défends, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure et qui s'engage tous les jours. Vous savez, au ministère de l'Intérieur, il y a 290 000 femmes et hommes qui, tous les jours, et parfois au péril de leur vie et en étant eux-mêmes menacés et agressés physiquement, s'engagent pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. C'est important de le dire.
Guillaume Roquette.
Oui, l'une des origines spécifiques, c'est la colère de certains syndicats, c'est l'annonce par le président de la République de la mise en place d'une plateforme pour recueillir les plaintes de gens qui estimeraient avoir été l'objet de contrôles d'identité non adaptés. On a parlé de délits de faciès. Alors face à ça, l'un des syndicats, Alliance, dit « la police ne choisit pas sa délinquance », ce qui laisse entendre qu'il y aurait certaines populations qui seraient surreprésentées dans la délinquance. Est-ce que vous admettez ce constat?
D'abord, qu'est-ce qu'a dit le président de la République à cet égard? Ce qu'il a dit dans cette interview à Brut, c'est qu'il fallait dupliquer la méthode que nous avons mise en place et qui a été efficace pour les violences conjugales, que cette méthode-là, il fallait la dupliquer sur les discriminations. Et il a donné comme exemple la plateforme que nous avons lancée, qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr, dans laquelle vous avez 2 unités, à Guyancourt et à côté de Rennes, de policiers et de gendarmes, 24 heures sur 24, qui répondent aux femmes qui sont victimes de violences. Le président a dit ça, on va le dupliquer, on va travailler avec le défenseur des droits, et on va travailler avec la LICRA, qui est une grande association antiraciste, pour faire en sorte que celles et ceux qui considèrent qu'ils ont été justement contrôlés au faciès ou victimes de discrimination dans le cadre de contrôle d'identité ou dans d'autres cadres de leur vie, les plus grandes discriminations c'est le logement et l'emploi, et bien que ces personnes-là puissent saisir cette plateforme et faire valoir leurs droits. Je trouve que c'est une initiative bonne et plutôt saine.
Ma question c'était, les policiers disent dans certains quartiers par exemple, effectivement il y a des gens qu'on contrôle plus que d'autres parce que il y a un risque objectif qui soit plus lié à la délinquance, et que ça c'est une réalité et qu'ils n'y peuvent rien et que c'est pas du racisme.
Et qu'on leur donne des consignes d'interpeller.
Il y a des consignes de contrôle et les contrôles existent. Après, on peut débattre philosophiquement de l'opportunité des contrôles préventifs. Moi, je crois que quand, par exemple, vous avez des policiers qui vont dans des quartiers difficiles où on leur a signalé des trafics de drogue ou du harcèlement de rue, eh bien, ils contrôlent les personnes qui sont dans la rue et dans l'espace public à ce moment-là et ils font leur travail. Maintenant qu'il y a... Moi, ce que je déplore, si vous voulez, globalement, dans ce débat, c'est qu'on est dans un débat... on a laissé monter la peur de l'autre dans la société. Vous avez certains jeunes dans des quartiers qui ont peur des policiers, et vous avez des policiers qui ont peur de travailler parce qu'ils ont peur d'être menacés, voire d'être agressés physiquement, comme c'est le cas certains d'entre eux.
Le général de ce matin dans Le Parisien, il dit craindre une guerre civile. L'ancien chef d'état-major des armées qui était auprès d'Emmanuel Macron, voilà ce qu'il dit.
Mais je comprends les craintes. Nous, au gouvernement, on n'est pas là pour craindre, on est là pour agir.
Mais est-ce que vous le craignez, vous aussi ?
Je ne crains rien. On n'est pas là pour craindre, on est là pour anticiper et agir. Gouverner, c'est prévoir, comme disait l'autre. Et c'est pour ça que le président veut regarder lucidement en face les problèmes, ne pas nier qu'il y ait des discriminations. Je crois que quand on dit à des jeunes qui viennent de quartiers à qui on a refusé des emplois, des logements, etc., de façon tout à fait raciste, quand on leur dit « c'est pas vrai, il n'y a pas de discrimination », je pense qu'il n'y a pas pire chose pour nuire au contrat social. Donc que le président voit ce sujet qui n'a pas été réglé depuis des dizaines d'années et le mette sur la table, je
trouve que c'est important. Mais quel échec, Marlène Schiappa, quand même, d'un président de la République qui promettait, je le disais en introduction de cette émission, l'apaisement de la société.
La réconciliation, la réconciliation.
Oui, vous savez, il y a deux valeurs très fortes dans le programme du président de la République en 2017. C'est effectivement unir, libérer, protéger, unir. Voilà qui a été le fil rouge du président de la République. Et la valeur de la liberté. Si vous relisez le livre Révolution d'Emmanuel Macron, la liberté d'entreprendre, la liberté d'agir, la liberté de ne pas être assigné.
Vous citez beaucoup le président. Vous êtes quasiment le porte-parole du président depuis quelques minutes. Mais Marlène Schiappa, est-ce que vous estimez, vous dites qu'il y a une part de responsabilité, d'échec du président que vous défendez aujourd'hui dans l'apaisement de la
Alors,
société.
J'étais en train de vous répondre en vous disant qu'il y avait ces deux objectifs très forts, unir et la liberté, défendre la liberté. Et nous sommes en fait confrontés au paradoxe de la situation. C'est très difficile quand vous êtes un gouvernement qui a été élu notamment pour son attachement et sa défense de la liberté et que vous avez à faire face à la crise sanitaire à laquelle nous avons à faire face. Il nous faut rester arrimés fortement à nos valeurs et ne pas laisser tomber, si vous me pardonnez cette
expression. Il y a eu les gilets jaunes avant, Marlène Schiappa. On ne parle pas que des crispations actuelles. Ce quinquennat est marqué par la violence et les crispations.
Alors, cette période, en tout cas, partout dans le monde, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, mais vous avez effectivement des crispations et une violence globale dans le monde. Et nous, on lutte contre cela et on fait en sorte justement d'unir autant que possible.
Dans un objectif d'apaisement, je reviens juste un instant sur la colère de certains policiers, en tout cas trois syndicats importants. Vous faites un geste, est-ce que vous allez les recevoir? Quand ils ont contesté il y a quelques mois, des gestes avaient été mis sur la table, est-ce que vous allez le faire? Et dans quelle mesure?
Là, je veux faire porte-parole du président de la République et de Gérald Darmanin, mais là, c'est la prérogative du ministre de l'Intérieur. Donc là, il faudra poser la question.
Vous êtes au ministère de l'Intérieur.
Je suis au ministère de l'Intérieur.
Vous parlez aussi au nom du ministère de l'Intérieur.
Absolument, et chacun a ses prérogatives. Et donc là, en l'occurrence, la relation avec les forces de l'ordre et avec les syndicats, c'est la prérogative du ministre de l'Intérieur. Je ne suis que ministre délégué chargé de la citoyenneté.
Est-ce que vous souhaitez qu'il soit reçu? Est-ce que vous pensez que ce serait une
bonne idée? Non, mais je ne vais pas là, sur le plateau du grand jury, donner des consignes à mon ministre de tutelle. Donc je pense que c'est important qu'il y ait un dialogue. Et je pense que le dialogue, il existe. Et d'ailleurs, si vous écoutez les syndicats, ils sont tout le temps, je crois, quasiment tout le temps, en soutien du ministre de l'Intérieur et en disant qu'ils se sentent considérés. Il y a eu des efforts faits, par exemple, pour les nuiteux. Le président et le ministre de l'Intérieur se sont rendus à la BAC de nuit à Paris. Il y a eu des primes qui ont été, de l'argent qui a été débloqué. Sur les heures supplémentaires, c'est la première fois qu'il y a un tel effort. Sur les équipements, une voiture sur quatre est renouvelée dans le parc automobile. D'ailleurs, c'est la première fois, et je vous le dis parce que j'étais au Sénat cette semaine, c'est la première fois que l'opposition, enfin que la droite sénatoriale vote le budget du ministère de l'Intérieur parce qu'ils ont acté qu'il y avait une augmentation considérable pour les moyens mis à disposition des forces de sécurité.
Marlène Schiappa, c'est quelque chose de positif. Si vous voulez apaiser les choses, pourquoi tout simplement ne pas retirer l'article 24? Pourquoi s'acharner à le maintenir coûte que coûte? C'est ce qu'annonce Gérald Darmanin ce matin dans les colonnes du JDD. Est-ce que ce ne serait pas une main tendue pour calmer les esprits?
Alors d'abord, je me permets de dire que vous avez dit dans votre introduction que je soutenais coûte que coûte l'article 24. La réalité, elle est un petit peu plus subtile et nuancée que cela. L'article 24, de quoi parle-t-on? Parce que peut-être les gens qui nous écoutent et qui reprennent l'actualité se demandent de quoi...
Ils n'ont entendu parler, mais vous pouvez recontextualiser.
Peut-être pas. L'objectif de cet article, c'est de dire que nous n'acceptons pas que des policiers, des gendarmes soient menacés, et notamment sur les réseaux sociaux. Vous avez à l'heure actuelle des pages Facebook qui ont pour slogan, par exemple, « Un bon flic est un flic mort » ou « All cops are bastards » et qui appellent à la haine vis-à-vis des policiers et des gendarmes. Vous avez des policiers qui sont suivis jusqu'à chez eux. Moi, j'ai rencontré à la rentrée scolaire en septembre un petit garçon de 8 ans qui m'a dit qu'il n'osait pas dire à l'école que son papa est policier parce qu'il a peur d'être harcelé ou menacé. Donc cet article 24, il visait à dire « Nous ne voulons pas qu'il y ait des menaces implicites ». Les appels à la haine sont déjà sanctionnés dans la loi. En revanche, quand vous postez une photo d'un policier en disant « Un tel, voilà son prénom, voilà son nom, il est policier, c'est son adresse, il habite au deuxième étage et le code c'est A26B dièse. Vous savez ce que vous avez à faire. » Ce sont des appels à la haine voilés.
Et
c'est ça que l'article 24 visait à supprimer.
Mais l'article 25 de la loi séparatisme qui arrive remplit tous ces critères. Pourquoi ne pas s'arrêter là et arrêter l'article 24 avec les divisions qu'on vient encore de commettre.
C'est peut-être là votre nuance dont vous parlez, Marianne Schiappa.
D'abord, sur l'article 24, je rappelle qu'il y a eu une réécriture en cours et qui a été annoncée. Je ne peux pas laisser là faire dans le débat comme si on gardait l'article 24 tel qu'il était prévu initialement. À la fois le Premier ministre, puis le ministre de l'Intérieur, mais également la majorité parlementaire, l'AREM, ont annoncé qu'ils voulaient travailler à une réécriture de cet article 24. Il faut que ça se fasse dans le respect des institutions. La prochaine étape, c'est le Sénat. Moi, je ne veux pas me substituer au Sénat, et donc il appartiendra maintenant au Sénat d'amender, de réécrire cet article 24, et donc il sera modifié considérablement par rapport à l'écriture, tout en, je l'espère, gardant l'objectif qui est de protéger les policiers et les gendarmes.
Vous n'étiez pas forcément à l'aise avec la première version de cet article, si on
Une question d'être à l'aise. Moi, vous savez, on a aussi fait campagne en 2017, en 2016 et 2017, sur le fait de faire de la politique autrement et d'écouter et de donner la parole. Et on écoute. Et quand nous on dit ce qu'on fait, on pense que ça répond à l'objectif, mais que vous avez des journalistes, des collectifs citoyens qui nous disent non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Il y a des effets de bord. On a peur que ça atteigne la liberté de la presse. Il faut l'entendre et il faut les écouter et travailler avec eux sur ce sujet.
Et Guillaume Roquette, entendez aussi l'ONU. Quand certains rapporteurs demandent de réviser cette loi sur la sécurité en la jugeant, je cite, incompatible avec le droit international des droits de l'homme, notamment parce qu'il y a il est prévu des recours plus importants aux drones pour surveiller les manifestations.
Moi, j'écoute évidemment le rapport de l'ONU qui sont toujours éminemment intéressants. Dans ce rapport d'ailleurs que j'ai lu, au début, la rapporteure de l'Organisation des Nations Unies salue les bonnes conditions et la transparence avec laquelle les autorités publiques lui ont permis justement de faire ce travail. Et ensuite, la question des drones, c'est une question extrêmement sensible, de ligne de crête entre la sécurité publique et les libertés publiques fondamentales. Et là encore, le dernier mot, il revient au Parlement. En démocratie, il y a des élus qui représentent le peuple. Ça a été discuté à l'Assemblée. Le Sénat va poursuivre la discussion dans les semaines à venir et ce sera aux sénateurs de se prononcer à cet égard.
Sur le principe, le fait que l'ONU donne son avis sur des lois françaises, ça vous choque pas ?
Ça me choque pas du tout. Je trouve ça plutôt sain qu'il y ait un débat, que chacun émette des avis et qu'au final, la démocratie tranche. Je suis pas choquée.
Mais vous, personnellement, Marlène Schiappa, qu'un drone puisse chez vous filmer chez vous, parce que c'est aussi ça la réalité, est-ce que ça ne vous inquiète pas ?
Il y a déjà des villes...
C'est en charge de la citoyenneté, je rappelle.
Hein. Absolument. Il y a déjà des villes qui ont mis en place des dispositifs avec des drones. Je pense par exemple à la ville de Nice, dans laquelle pour le Covid, il y a des drones qui passent et qui délivrent des messages et qui rappellent les messages de sécurité. Et la population à Nice, manifestement, l'a bien pris.
Sans filmer.
Maintenant, l'idée,
ou alors si c'est le cas, ça a été assez
maintenant, contesté. L'idée, ce n'est pas que les drones rentrent chez vous, hein, parce que je ne veux pas là non plus qu'on dise des choses qui ne sont pas dans la loi et qui fassent peur aux gens. Ce qui est prévu dans cette loi n'est absolument pas la possibilité pour un drone de rentrer chez vous, de faire une reconnaissance faciale, etc., etc. C'est pas ce qui est dans cette loi.
Alors on en vient à la loi séparatisme. En tous les cas, c'est son nom initial. Elle a été rebaptisée loi confortant les principes républicains. Vous allez être impliqué, bien évidemment, dans la défense de cette loi qui sera présentée en Conseil des ministres mercredi. Marlène Schiappa, en juillet 2014, je vous cite, vous disiez « Interdire le voile, c'est reconnaître le voile comme signe religieux. » Donc reconnaître une religion, interdire le voile à l'école est donc contraire à la loi de 1905. Interdire le voile à l'école est donc contraire à la loi de 1905, ce qui a été voté par ce pays en 2004 sur la ligne dans la loi contre les signes ostentatoires de religion dans les institutions scolaires. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, Marlène Schiappa ?
Plusieurs choses. D'abord, sur le fond, vous noterez que sur le fond de la ligne sur la laïcité, je n'ai pas changé d'avis sur la question du voile. Et je voudrais le dire parce qu'on nous prête pas mal de caricatures. On caricature beaucoup mes positions passées et on caricature mes positions présentes. Alors qu'il y a des sujets, par exemple, pour le voile, pour les accompagnatrices scolaires, donc le voile pour les mamans à l'école, sur lequel je n'ai absolument pas changé d'avis. Je ne crois pas qu'il soit de la responsabilité.
Vous disiez à l'époque que c'était islamophobe. De vouloir interdire les mères voilées pour accompagner les sorties.
Il y a deux sujets, si vous voulez bien. Je reviens tout de suite sur votre question sur l'islamophobie. Puis sur la question sur le voile, je suis contre l'interdiction du voile pour les sorties scolaires, pour plein de raisons que je peux développer si vous le souhaitez, notamment parce que j'ai été élue locale et j'ai vu parfois dans des écoles avec des situations difficiles qu'autour de vous, réunion de parents, vous avez des mamans voilées en boubou, etc. Et si vous les interdisez de venir dans les écoles, dans les kermesses, dans les fêtes scolaires, en fait, vous stigmatisez et vous écartez des gens de l'école. Maintenant, sur le terme
Ça ne concernait pas que les accompagnatrices. interdire le voile à l'école est donc contraire à la loi de 1905. Qu'est-ce que ça veut dire que vous n'auriez pas voté la loi de 2004 interdisant les signes?
Non, pas du tout. J'étais là en train de parler de l'accompagnement des mères à l'école.
Uniquement l'accompagnement.
Absolument.
Parce que vous faisiez à l'époque le distinguo justement avec la question des mères accompagnatrices.
Non, vraiment pas. Alors peut-être que ma phrase est alambiquée, mais vraiment sur ce sujet-là, enfin, vous pouvez trouver tous mes écrits, les livres, les tribunes que j'ai fait à l'époque.
Donc, voilà. Acte.
Alors, en revanche, sur l'islamophobie, là, j'ai évolué. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je considérais que j'ai utilisé dans le passé le terme islamophobie. Je l'employais, et voilà, je trouvais que c'est une forme de racisme, l'islamophobie. Et ensuite, je vais vous dire, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que j'ai lu le livre posthume de Charb, qui s'appelle, je crois, « Lettre aux escrocs de l'islamophobie ». Et dans ce livre,
je recommande... chef de Charlie Hebdo, assassiné lors
exactement. De la campagne. Et ce livre très court est paru après le fait qu'il ait été assassiné par des terroristes islamistes. Et dans ce livre, en fait, il fait une démonstration sémantique du fait que le terme « islamophobie » peut être gravement manipulé et que pour lui, il y a effectivement du racisme contre les musulmans ou du racisme, mais que le terme « d'islamophobie » nous mène à des dérives. Et d'ailleurs... il avait raison, parce que c'est ce qu'on a vu notamment avec l'affaire Mila. Donc moi, maintenant, je n'emploie plus ce terme d'islamophobie, parce que j'ai rejoint Charb sur ses positions, comme quoi lire, c'est aussi utile, et comme quoi les responsables politiques peuvent aussi évoluer dans leur réflexion après avoir lu.
Alors, on en revient sur la loi séparatisme, Amélie Carouel.
Avec plaisir. Donc, contrôler le financement des lieux de culte, interdire les certificats de virginité, conseil des imams, on en reparlera très certainement. Cette loi ne cache-t-elle pas une forme d'hypocrisie, comme le souligne par exemple Jean-Luc Mélenchon? Elle vise principalement et directement l'islam.
Absolument pas. Dans la mesure où justement cet article 2, auquel je suis manifestement attachée puisque je le cite depuis des années, l'article 2 de la loi 1905 explique que la République ne reconnaît aucun culte, ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et comme la République ne reconnaît aucun culte, la République ne peut pas légiférer sur une religion. Je vous invite à regarder, à lire, et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, à lire ce texte de loi pour conforter les principes républicains. À aucun moment vous n'avez le mot islam et à aucun moment vous n'avez le mot musulman.
C'est là où Jean-Luc Mélenchon parle d'hypocrisie, c'est-à-dire que sans le nommer, c'est quand même ce qui est visé.
Absolument pas. Ce qui est visé, c'est quoi? C'est le séparatisme et principalement, pas uniquement, il y a aussi des dispositions sur les dérives sectaires et des dispositions sur la dignité humaine, mais essentiellement, il s'agit de la menace qui existe et cette menace, c'est la menace du séparatisme islamiste. Et je crois qu'on ne peut pas dire que ni le président de la République avec son discours au Mureau, ni le ministre de l'Intérieur quand il dissout Baraka City ou le CCIF, ni moi-même avec mes différentes prises de position et actions avec les cellules de lutte contre l'islamisme sur le terrain, on ne peut pas dire qu'on soit hypocrite. Au contraire, certains nous accusent justement d'aller trop loin et d'être trop ferme dans nos expressions. Pardon de le dire, mais la menace c'est celle-là. Regardez les derniers attentats terroristes. Que s'est-il passé quand on est allé égorger deux femmes qui étaient en prière dans une église un matin à Nice? Et que s'est-il passé quand quelqu'un est allé décapiter un professeur en pleine rue à 17h. C'est au nom de cette idéologie de l'islamisme radical que cela a été fait. Je pense qu'il faut avoir la lucidité de le voir. On combat le terrorisme, mais on combat aussi l'idéologie qui précède au passage à l'acte terroriste.
Donc, vous dites globalement, c'est plutôt cette religion, l'islam, qui est
réplicement visée.
Le conseil des imams.
On ne parle pas d'une religion. Vous me dites, c'est cette religion. Je vous dis, on lutte contre l'islamisme radical. Vous me dites, c'est cette religion qui est visée. Il y a des millions de musulmans qui vivent en France dans le respect des lois de la République et qui nous disent d'ailleurs, on ne veut pas être que notre religion soit dévoyée et aidez-nous, protégez-nous à faire en sorte que les terroristes ne soient pas ceux qui représentent les musulmans que nous sommes respectons les lois de la République. Ce n'est pas l'islam.
Visés et des imams notamment, voilà, un imam qui s'appelle Mohamed Bajrafil qui est imam depuis 14 ans dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne, qui est un imam respecté et qui a décidé de jeter l'éponge en dénonçant la pression de l'islam de France. En fait, pour lui, le conseil des imams que vous voulez mettre en place et que vous annoncez en même temps que cette loi sur les principes de la République, et bien que ça aboutisse à un clergé musulman labellisé républicain. Est-ce que c'est là où vous n'entretenez pas une certaine confusion? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vouloir organiser et d'avoir une tutelle sur le culte musulman au point d'agacer et de décourager des imams qui sont respectés?
Je vous réponds sur ce sujet d'abord. Ça me semble très important là aussi de rappeler qu'il ne s'agit pas, ni pour le président de la République, ni pour le gouvernement, d'organiser l'islam en France. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le gouvernement qui va mettre des tampons ou donner des labels aux imams. En revanche, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, nous, des imams qui sont venus nous voir en nous disant, parfois, on est mis dehors de notre propre mosquée par des gens qui sont radicaux, par des gens qui sont financés par des fonds étrangers sur lesquels il y a une opacité terrible et nous on veut être protégés de cela. Vous savez, aujourd'hui n'importe qui peut dire qu'il est imam et faire une vidéo YouTube dans laquelle il appelle à la haine des femmes, la haine des gays et qui profère notamment des propos par exemple d'apologie du terrorisme. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui a expliqué qu'il était un représentant des imams de France qui s'est rendu dans ce collège à Conflans-Sainte-Honorine quelques jours avant que le professeur Samuel Paty a été décapité. Donc vous avez là un problème de représentation. Mais ça, ce n'est pas un problème à régler par le gouvernement. C'est un problème à régler justement par les représentants, par le CFCM. C'est à eux de s'organiser et de dire comment ils souhaitent protéger les musulmans de France des influences étrangères et notamment de l'islamisme radical.
Est-ce que vous ne semez pas le trouble sur votre propre loi en annonçant en même temps que cette loi pour conforter les principes républicains un conseil des imams? Bien évidemment qu'à un moment donné, le lien se fait automatiquement. Est-ce que c'était judicieux de le faire simultanément?
Mais pardon, le lien, ce n'est pas nous qui le faisons. Le lien, ce sont les représentants du culte musulman qui viennent nous voir.
Ça s'annonce en même temps et on fait le lien raison.
Bah, alors, on peut décider qu'il n'y a pas de lien, alors. Il n'y a aucun lien entre l'islamisme radical et le fait qu'il y ait des gens qui se présentent comme des imams et qui appellent à la haine et qui font l'apologie du terrorisme. Vous trouvez qu'il n'y a pas de lien?
Non, mais vous êtes en train de nous dire que cette loi n'était pas liée à une religion. Je vous fais remarquer que le Conseil des imams est annoncé simultanément.
Autre point qui est prévu dans cette loi contre les séparatismes, l'interdiction de la scolarisation à domicile. Il y a beaucoup de critiques là-dessus, y compris peut-être d'ordre juridique, en disant mais c'est une liberté que vous enlevez à des parents qui veulent scolariser leurs enfants à la maison sans être en aucun cas suspect de vouloir radicaliser leurs enfants.
Oui, non, vous avez raison. Là-dessus, je peux dire que l'objectif à la base, et je vais vous dire après comment on entend les critiques, mais l'objectif de base, c'est de constater qu'il y a des enfants qui sont retirés du système scolaire, qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, qui n'ont jamais été confrontés à l'altérité et qui sont pris dans des formes, je peux le dire de cette manière, dans des formes de dérive sectaire quand leurs parents sont des religieux radicaux et qui les endoctrinent. Vous avez des fausses écoles ou des enfants qui sont gardés, vous avez des petites filles de 4 ans qui sont voilées, où il n'y a pas de cours de récréation, qui échappent absolument à toute instruction. Maintenant, vous avez aussi des gens qui font de l'instruction à domicile qui ne sont absolument pas dans ce cas. Vous avez des gens qui font de l'instruction à domicile parce que leur enfant a été victime de harcèlement scolaire, parce qu'ils ont des métiers qui les amènent à bouger, parce qu'ils ont des projets pédagogiques de famille et qui donnent une instruction tout à fait conforme, claire et intelligente.
Est-ce que là, ils vont pouvoir continuer alors?
Moi, on est en train d'y travailler justement, et ça c'est une mesure de Jean-Michel Blanquer, donc ce sera à lui de vous dire ce qu'il en est exactement, mais je crois qu'il faut là aussi trouver une ligne de crête pour qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Et protéger les enfants et assurer le fait qu'ils puissent aller à l'école et qu'ils reçoivent une instruction, sans non plus mettre fin à des systèmes qui sont parfois pratiques, pardon de le dire comme ça, pour les parents et qui correspondent à des nécessités très précises. Alors le président de la République et Jean-Michel Blanquer ont déjà indiqué qu'il y aurait des dérogations, notamment pour les raisons de santé. Par exemple, vous avez un enfant qui est en situation de handicap lourd, pour lequel une AVS ne suffit pas pour le scolariser, il pourra bien évidemment poursuivre l'instruction à domicile. Quant au reste, il y a des consultations. Le Conseil d'État s'est réuni le 3 décembre. Il doit nous remettre là, dans les heures ou jours à venir, un avis qui sera rendu public et nous dira notamment s'il considère que c'est inconstitutionnel ou pas. Et bien évidemment, nous en tiendrons compte d'ici le 9 décembre et la présentation au Conseil des ministres.
D'ici mercredi donc. Absolument. C'est l'heure de la question en plus qui vous est posée par Sarah Saint-Michel, maître de conférence à l'Université Paris 1. Là. Voilà.
Madame la ministre, bonjour. Sarah Saint-Michel, maître de conférence au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialisée sur les questions du leadership et du genre. Vous appartenez actuellement au ministère de l'Intérieur qui a dû payer une pénalité de 90 000 euros pour non-respect des quotas sur la présence des femmes au sein des postes de direction. Ne pensez-vous pas que l'État devrait être exemplaire sur cette question et comment comptez-vous corriger cette situation? Merci.
Marlène Schiappa, une sanction payée par le ministère. Ouais. Il n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres ministères qui payent beaucoup plus.
Bien sûr, mais ce n'est pas une excuse. Ouais. Alors, je trouve que la question est très intéressante, elle a absolument raison. Moi, je trouve que c'est un scandale qu'il y ait des ministères à l'heure actuelle, en 2020, qui ne respectent pas les obligations de parité. De surcroît, la loi n'est pas extraordinairement contraignante. Il faut nommer 42% de femmes dans les primo-nominations. Mmh. Donc moi, je trouve que cette situation, elle est inacceptable et je ne veux évidemment pas être la ministre déléguée d'un ministère qui ne respecte pas la parité. Donc nous avons créé une task force avec la DRH, le secrétaire général du ministère et les directeurs des différentes administrations. Et nous sommes en train de travailler sur un plan pour atteindre 50% de nominations de femmes au poste à haute responsabilité d'ici la fin du quinquennat. Donc c'est un défi parce que ce ministère est historiquement très masculin. Mais il y a beaucoup de femmes de grands talents. Nous allons les identifier et les promouvoir.
Mais il y a une femme au ministère de l'Intérieur. C'est vous et on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury. À tout de suite.
Vous voulez avoir le plus beau sapin pour Noël ? Chez Jardiland, du 4 au 6 décembre, le sapin Norman coupé à pied taillé de 1 mètre à 1,50 m est à 14,95 €. Et en plus, le socle en bois est offert. Dépêchez-vous, les plus beaux sapins sont chez Jardiland. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com.
Alors, jusqu'au 24 décembre chez Auchan, le smartphone Oppo Find X2 Lite est à 449,90 € avec une remise immédiate de 150 €. Soit le smartphone 5G avec système de charge ultra rapide à 299,90 €. Quitte main libre recommandée, évidemment.
Ah, les bons plans qui font la différence. Auchan.
Offre valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Chez Auchan, chaque geste fait la différence. Respectons ensemble les consignes sanitaires.
Gémeaux présente son offre Black Friday, ça, c'est vous. Quand vous apprenez que tout est à moins 20% chez Gémeaux.
Youhou !
Et ça, c'est vous quand vous en profitez pour préparer Noël.
Youhou !
Jusqu'au 6 décembre chez Gémeaux, moins 20% sur tout en magasin et sur Gémeaux.fr. Horaires élargis, magasin ouvert le dimanche. Liste sur Gémeaux.fr. Vendredi noir, hors marque de sport. Produits d'entretien et bijoux. Conditions en magasin et sur Gémeaux.fr.
Bonjour, c'est de nouveau le frère Yves Combeau. Si le jour du Seigneur existe depuis 70 ans, c'est aussi grâce à votre soutien. Aidez-nous à continuer en faisant un legs. Cela veut dire que le jour où vous ne serez plus là, votre patrimoine peut aller au jour du Seigneur. Il restera quelque chose au-delà de vous qui permettra à d'autres de garder un lien avec l'Église.
Renseignez-vous sur le legs auprès de Marie-Laure, le jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris.
RTL, 12h30. Les infos, Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Myriam, bonjour à tous. 95 personnes interpellées hier pendant les manifestations contre la loi sécurité globale, marquées par des violents incidents qui ont fait 67 blessés parmi les forces de l'ordre. C'est à Paris que les dégâts ont été les plus impressionnants. Plusieurs commerces ont été saccagés. Marlène Schiappa est l'invitée du grand jury RTL Le Figaro LCI, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Elle assure que le gouvernement travaille contre les Black Blocs. Marlène Schiappa déplore l'absence de services d'ordre dans les manifestations depuis les Gilets jaunes. Sur les violences policières, elle parle d'un usage légitime de la force pour garder la paix, pour maintenir l'ordre, tout en reconnaissant aussi parfois des violences inadmissibles. Résultat en nette baisse pour le Téléthon, 58,29 millions d'euros de promesses de dons, c'est 16 millions de moins que l'an dernier pour cette édition confinée, privée des animations traditionnelles de ce marathon caritatif. Vous pouvez encore continuer à donner sur don.téléthon.fr ou par téléphone au 36 37. Parmi les premiers vaccinés contre le Covid-19, la reine d'Angleterre, elle recevra le vaccin de Pfizer-BioNTech dans les prochaines semaines. Pas de traitement préférentiel. À 94 ans, elle fait partie des personnes prioritaires, tout comme son mari, le prince Philippe, âgé, lui, de 99 ans. Dans le Vendée Globe, Jean Le Cam reprend son cap 6 jours après avoir secouru Kevin Escoffier, contraint d'abandonner la course. Il a pu être récupéré par une frégate de la Marine Nationale tout à l'heure. Jean Le Cam est actuellement à la 6e place de la course. Charlie Dalin est toujours en tête. L'événement sport de la journée, c'est le rugby. À 15h, le 15 de France affrontera l'Angleterre dans la Coupe d'automne des Nations. Et puis en football, la suite de la 13e journée de Ligue 1. Lille recevra Monaco à 13h. Six autres matchs prévus ce dimanche, notamment Lyon contre Metz, à suivre dans RTL Foot ce soir dès 20h. Et puis la Formule 1, Valtteri Bottas partira en tête tout à l'heure lors du Grand Prix de Sakhir. Dans un instant, la suite du grand jury de Marlène Schiappa, présentée par Benjamin Sportouche.
Lui, c'est Antoine. Antoine travaille depuis 35 ans. Aujourd'hui, à 58 ans, il commence à penser à sa retraite et à se questionner. Grâce à son espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, Antoine connaît son âge de départ et le montant estimatif de sa retraite. Il peut même vérifier si toutes ses années de travail ont bien été prises en compte. Et tout ça, sans se déplacer. Pratique, surtout en cette période.
Préparer et planifier sa retraite, c'est simple sur l'assurance-retraite.fr. Ma retraite de la Sécurité sociale, c'est sur l'assurance-retraite.fr.
Avec l'assouplissement des règles de confinement, vous êtes plus nombreux à utiliser votre voiture. Afin de vous protéger au maximum, nous faisons tout pour vous accueillir dans le respect des règles sanitaires. Et pour vous accompagner dans vos projets, nos offres continuent avec Twingo à partir de 99 € par mois avec EasyPack. Soit la garantie, l'assistance et l'entretien avec les pièces d'usure, le tout inclus pendant 4 ans. Renault. ouvert pour vous. Pour Twingo Life SCE 65, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1 500 euros jusqu'au 31 décembre si accord Diac. Voir Renault.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô patron, il est de retour.
Toi, tu mijotes quelque chose.
Ah oui, vous qui adorez faire la cuisine avec madame, eh ben vous serez trois avec le robot Monsieur Cuisine Connect en vente chez Lidl en ce moment.
Oh, notre rêve.
Et il y a un prix aux petits oignons, hein. 329 euros au lieu de 359.
Moins 30 euros? Seulement 329 euros? Mais c'est 4 fois moins que...
Que ce que vous imaginiez. Eh oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 2,10€ d'éco-participation, garantie 3 ans, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr.
La Vallée, c'est le nouveau thriller de Bernard Minier. Un appel au secours au milieu de la nuit. Une série de meurtres épouvantables dans une forêt mystérieuse. Une nouvelle enquête de Martin Servaz. La Vallée de Bernard Minier. Un livre XO. XO, lire pour le plaisir.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre déléguée à la citoyenneté, Marlène Schiappa. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Amélie Carouer de LCI et Guillaume Roquette du Figaro. On revient à cette loi sur les principes républicains qui sera donc présentée mercredi en Conseil des ministres. Vous allez y associer la création d'un contrat d'engagement républicain pour les associations subventionnées qui devra stipuler notamment la liberté de conscience, la protection de l'intégrité. Est-ce que vous n'êtes pas en train, Marlène Schiappa, de contraindre cette liberté d'association? Il y a beaucoup de maires qui s'inquiètent un peu de cela, et d'associations elles-mêmes qui disent « Mais attention, pourquoi signer un contrat, de quelque nature qu'il soit, avec l'État ? Ce qui prévaut, et la Constitution le garantit, c'est la liberté d'association. »
Vous avez raison, la liberté d'association, elle est absolument fondamentale. Et moi qui ai créé et présidé pendant 10 ans une association qui s'appelait Maman Travail, je confirme mon attachement à cette liberté très forte d'association. Maintenant, la garantie de la liberté d'association, ça ne veut pas dire une obligation d'avoir, de donner des fonds publics et de donner des subventions. Il y a des associations qui sont subventionnées par des fonds publics. Et nous considérons important que les associations qui sont subventionnées, qui touchent de l'argent public, donc de l'argent des impôts des Françaises et des Français, soit des associations qui respectent les valeurs
c'est
de la République.
C'est une immense majorité des associations qui sont subventionnées dans ce pays ou pas, semble-t-il.
Alors, la moitié,
ça veut dire,
à peu près la moitié des associations qui sont des associations employeurs sont subventionnées.
Mais c'est la tutelle qu'on est en train de vous reprocher. C'est la menace d'une tutelle étatique sur la raison d'être d'une association.
Alors, non, pas du tout, puisque d'abord, un, l'association, elle peut se créer librement. Et deux, quand vous avez des associations qui ne respectent pas la liberté de conscience, qui contraignent, par exemple, des gens qui n'ont pas de croyance à prier ou qui obligent à prononcer, ou qui prononcent tout court des propos antisémites, qui rejettent les femmes, qui tiennent des propos sexistes, discriminatoires, qui sont sous couvert d'être des associations soi-disant sportives ou soi-disant d'aide aux devoirs, font de l'endoctrinement sur l'islamisme radical et sur l'apologie du terrorisme, oui, ça me semble la moindre des choses que de dire qu'on va arrêter de les subventionner. On ne veut pas donner un euro d'argent public pour les ennemis de la République. Et pourquoi on fait ça? On fait ça justement pour soutenir les maires. Moi, je vais à Montpellier demain soutenir le maire qui est parti socialiste d'ailleurs, mais que je soutiens pour son action courageuse sur la laïcité. Il a voulu faire une charte de la laïcité. Et des associations ont dit, non, nous, on va l'attaquer en justice. Eh bien, avec Gérald Darmanin, nous disons que nous faisons un contrat d'engagement qui sera dans la loi, qui aura valeur de loi, et donc légale, et donc qui pourra soutenir les élus comme lui,
mais
ou comme Valérie Pécresse, qui veulent mettre en place ce type de charte.
N'y a-t-il pas une forme d'effet d'annonce? On nous avait dit, au moment des élections municipales, qu'il y aurait des listes communautaires qui allaient remporter des villes. Ce ne fut pas le cas. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas en train d'agiter un chiffon rouge supplémentaire?
Alors vous savez, on réunit tous les 15 jours ou tous les mois dans les départements des CLIR, des cellules de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire, autour des préfets, du procureur de la République. Et on balaye avec tous les services de l'État, l'État de commerce, d'entreprise ou d'associations qui sont radicalisées. Et il y a des associations qui subventionnent des activités liées à l'islamisme radical. C'est une réalité.
Combien sont-elles en France?
Et je crois que c'est difficile justement à quantifier, et c'est pour ça que ces CLIR existent. Mais pour répondre peut-être sur la première partie de votre question, nous entendons là aussi ce que disent les élus, les associations. Et donc, je vous annonce que je lance deux grands cycles de concertation, l'un auprès des représentants des associations avec ma collègue Sarah El-Haïry pour écouter justement ce qu'ils ont à nous dire et retravailler ce texte, et l'autre avec les représentants des élus et des collectivités avec ma collègue Jacqueline Gouraud, qui est ministre de la Cohésion des Territoires. Nous allons recevoir entre le 9 décembre et le passage du texte au Parlement les grands représentants des élus locaux, régionaux, départementaux, etc., pour leur présenter le texte tel qu'il est et pour prendre aussi leurs propositions de modification autour de la définition de ces valeurs de la République.
Peut-être que vous sentez les oppositions monter et vous éprouvez le besoin de les désamorcer.
Fois, comme sur l'article 24, comme sur l'enseignement à domicile, moi je pense que c'est important d'écouter les Français et d'écouter les experts. Et donc nous faisons des propositions et ensuite le texte il n'est pas voté, hein. Le texte il est encore en préparation, il y a des derniers arbitrages qui sont en cours. Moi je crois qu'il est important au contraire d'être dans la concertation et de se dire eh bien très bien, nous allons voir les associations, nous allons voir les élus et avec eux nous allons définir ces valeurs de la République et définir le cadre qui sera proposé à ces associations qui s'engageront dans le cadre de ce contrat.
Amélie Carouer.
Sur la laïcité, vous annoncez, vous avancez sur la question de référent laïcité dans l'administration. Mais dans le fond, est-ce qu'il n'y avait pas déjà des agents, des référents sur les questions de radicalisation? Est-ce que ça aurait pu, et ça n'a pas d'ailleurs empêché le passage à l'acte terrible, notamment à la préfecture de Paris? Donc, pardonnez-moi, la question est directe, mais à quoi ça sert?
Non, c'est une très bonne question. Deux choses. D'abord, dans le cadre de la fonction publique, je mène un travail avec Amélie de Montchalin, la ministre chargée de la transformation de la fonction publique, et nous présenterons notre feuille de route commune sur la laïcité dans la fonction publique dans quelques semaines. Mais nous, avec Gérald Darmanin, nous nommons d'ores et déjà dans la semaine qui vient des référents laïcité auprès des préfets, qui seront des sous-préfets ou des directeurs de cabinet de préfets, directement rattachés aux préfets. Et vous avez raison, il ne suffit pas de les nommer. Parce que parfois, dans le passé, on a nommé des référents et on ne les a jamais réunis et on ne leur a jamais donné de feuille de route. Donc nous, avec Gérald Darmanin, nous nommons ces référents et nous allons les réunir pour leur donner une feuille de route concrète et exigeante sur ce que sera la défense du principe de laïcité, y compris dans les territoires et de façon très concrète, et y compris en accompagnement des élus locaux pour les soutenir.
Dans l'administration, vous les sentez monter, ces atteintes à la laïcité?
Oui, moi j'observe, et j'ai beaucoup travaillé, je le disais à Camille Montchalin, la ministre en charge de ce sujet, nous observons qu'effectivement il y a des interrogations qui existent et que parfois les cadres sont démunis pour y répondre.
Sur quel sujet concrètement? C'est des demandes de...
Sur différents sujets, vous savez, c'est pour ça qu'avec Gérald Darmanin, on étend la neutralité religieuse aux délégations de services publics dans cette loi que nous allons présenter mercredi. À l'heure actuelle, il y a une neutralité religieuse pour les fonctionnaires, pour ceux qui représentent la République,
aux impôts, aux
guichets. Absolument, aux impôts, aux guichets, etc. Mais nous considérons qu'on doit aller plus loin et que quand on est délégataire de services publics, par exemple dans le secteur des transports, eh bien on représente aussi un service public. Et donc il est aussi important pour assurer l'égalité de traitement de tous les citoyens de ne pas arborer de signes religieux ou de ne pas avoir de pratiques religieuses parce qu'on représente la République.
Oui. On en vient à la gestion de la pandémie.
De pratiques religieuses dans son temps de travail. Hein, pardon, je ne veux pas qu'on dise que j'interdis les pratiques religieuses. Une liberté de culte, chacun a le droit de pratiquer sa religion.
Vous avez raison de le préciser, Marlène Schiappa. On en vient à la gestion de la pandémie. Est-ce qu'il est envisagé, Marlène Schiappa, de ne pas passer au palier supplémentaire d'allègement du confinement? C'est-à-dire qu'au 15 décembre, le président de la République nous avait dit qu'il faut qu'il y ait 5000 contaminations par jour. On n'y sera peut-être pas. Est-ce que dans ce cas-là, vous envisagez de revoir ce calendrier?
Moi, vous me permettrez, autant d'être très déterminée sur les sujets qui relèvent de mon périmètre, autant d'être très prudente sur ce qui relève de la gestion de crise. Non, je vais vous dire
pourquoi. Ça l'est pour partie, le ministère de l'Intérieur, les attestations de sortie, c'est vous.
Alors, ça l'est pour ce qui est décidé. Je ne vais pas me perdre en conjoncture. Je trouve que ça nous a été d'ailleurs parfois reproché, et parfois à juste titre, de dire que dans le gouvernement, chacun donne son avis et s'exprime sur un hypothétique futur de règles de gestion de la crise sanitaire. Je pense que c'est important que le Premier ministre et ministre de la Santé garde la prérogative des annonces du futur sur ce sujet. Moi, j'observe les conditions qu'a posées le président de la République. Il faut que ces conditions soient respectées.
Alors, quand même, tout de même, sur le vaccin, parce que c'est important et que peut aussi toucher dans l'organisation de la logistique votre ministère, ouais. Amélie Carouer.
Donc, il y a un nouveau monsieur vaccin, le professeur Alain Fischer, pour bien le nommer. Il met sur la table et sans réserve justement tous les doutes autour du vaccin, toutes les inconnues. Oui. Et il dit, on ne dispose que des communiqués de presse des industriels. On attend avec impatience des publications scientifiques. Et du coup, déjà, comment est-ce possible? Et comment est-ce possible d'avancer avec si peu de données? Et du coup, n'allons-nous pas trop vite?
Alors plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a un monsieur vaccin, comme vous dites, et je pense que c'est assez important qu'on ait un scientifique qui connaisse ce sujet très sensible et technique et difficile, qui puisse justement s'exprimer et être un genre de trait d'union entre à la fois le pouvoir politique, le monde de la santé et bien évidemment les citoyens. Notre objectif, c'est qu'à terme, chacun puisse être vacciné s'il le souhaite. Pourquoi ? Parce que le vaccin permet non seulement de ne pas tomber malade, mais d'arrêter de faire circuler la maladie. Il y a dans le passé, même dans un passé récent, beaucoup de maladies qui ont été éradiquées grâce au vaccin. Je le redis parce qu'il y a encore des thèses complotistes et des contestations de bien l'utilité sûr. Même du
mais
vaccin.
Mais dans ce cadre de défiance, maintenant, justement, mettre les choses à ce point sur la table, est-ce que certains jugent que c'est maladroit est-ce que c'est votre manière de jouer carte sur table et de dire c'est la transparence ou est-ce que c'est une manière de vous protéger par la suite en disant on vous aura prévenu.
Je suis pas là pour juger les prises de parole des uns et des autres. On est déjà dans un monde où chacun juge les prises de parole de toute personne qui prend un tant soit peu de responsabilité. Je ne vais pas en rajouter. Je pense que c'est courageux de prendre cette responsabilité dans la période de crise sanitaire que nous vivons. Et maintenant, évidemment, nous voulons que chacun puisse avoir accès au vaccin, et c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex, mais nous voulons évidemment que ça se fasse dans des conditions sanitaires sûres. Il sera hors de question de mettre sur le marché ou de mettre à disposition en France des vaccins qui n'ont pas été testés, labellisés, validés par des publications scientifiques et par toutes les organisations du monde qui valident justement la mise à disposition des vaccins.
Marlène Schiappa, vous qui êtes une adepte des réseaux sociaux, est-ce que vous envisagez de vous faire vacciner? J'imagine que vous allez nous dire oui. Est-ce que vous le ferez devant les caméras pour justement inciter la population à le faire?
Moi, à titre personnel, je me ferai vacciner quand le vaccin sera confirmé comme utile, sûr, etc. Mais dès lors que ce sera le cas, oui, je me ferai vacciner. Pas forcément pour éviter de tomber malade, je ne suis pas considérée comme personne à risque, mais surtout pour éviter de propager la pandémie et pour faire en sorte de résorber la pandémie de Covid-19 dès que ce sera possible.
Sur les pour la résorber cette pandémie, le président de la République avait évoqué la possibilité d'un confinement imposé, d'un isolement pour les personnes contaminées, pour éviter justement qu'elles puissent la transmettre. Il avait dit qu'il y aura un débat au Parlement, puis on n'a plus de nouvelles. Vous en avez, vous ?
Alors, moi, je dirais que ce qui est important, c'est que chacun joue le jeu. Et moi, je voudrais commencer par avoir une parole peut-être un peu dissonante. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Regardez, ici ou là, les Français ne respectent pas le confinement, etc. » Moi, je trouve qu'on a imposé pour nous protéger, pour protéger la vie humaine face à la pandémie, des restrictions de liberté très fortes. Et je trouve que les Français ont vraiment joué le jeu, à la fois en restant chez eux pendant le premier confinement, en respectant les mesures barrières, en portant des masques. Et je pense particulièrement aux plus jeunes. Moi, j'ai une fille qui est adolescente. Voilà, je pense que c'est difficile de vivre son adolescence quand on n'a pas le droit de sortir, quand on ne peut pas inviter des amis
donc,
à la
si
maison.
Si c'est déjà respecté,
etc.
Ça veut dire que ce n'est pas la peine de mettre en place un isolement contraint.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un isolement qui, à l'heure actuelle, et des mesures qui sont respectées. Et je voulais juste avoir un mot pour les personnes âgées, et notamment pour les personnes seules, et leur dire qu'on sait à quel point c'est difficile, qu'on fait ça pour les protéger, et non pas parce qu'on se désintéresse d'elles, mais au contraire parce qu'on tient à elles et on veut qu'elles restent en bonne santé. Et je voudrais dire qu'ensuite, il faut regarder et tout mettre sur la table et discuter de la manière dont on peut protéger justement ces personnes à risque en demandant à chacun, lorsqu'il est malade ou lorsqu'il est cas contact, de rester chez lui. Et je sais que c'est frustrant, j'étais cas contact il y a quelques semaines, j'ai dû rester chez moi le temps que les résultats du test arrivent, etc. C'est terrible parce qu'on se dit on est cas contact, on n'est pas malade, on se sent bien, on a envie de sortir, de travailler, d'aller vivre sa vie, et on ne peut pas le faire. C'est très frustrant.
Là, en l'occurrence, l'isolement contraint, c'était pour les personnes contaminées. Est-ce que vous pensez que ça va se faire ou pas ?
On va voir, là, comme moi je vous réponds ce que je vous ai répondu tout à l'heure, pardon, mais je ne veux pas rajouter de la confusion et donner un avis.
Gabriel Attal dit clairement qu'il y est favorable, le porte-parole du gouvernement. Est-ce que,
oui,
au titre personnel,
Attal,
vous y êtes favorable?
Gabriel Attal a le droit d'y être favorable. Moi, j'attends que les décisions soient prises. Je ne veux pas rajouter du bazar au bazar sur l'expression sur ce sujet.
Bon, si Gabriel Attal crée du bazar...
Gabriel Attal a forcément raison, puisque...
Tout en créant du bazar.
J'adore Gabriel Attal, on l'embrasse. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit sur Gabriel
Question
Attal.
Question express.
Le grand jury, question express.
Marlène Schiappa, pour ou contre la réforme des retraites d'ici avril 2022 ?
Pas mon sujet. Honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense. Là, je trouve que, comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une situation... Pardon, je vais être longue, mais pour les
pas
prochaines,
trop,
je vous dirai juste
que c'est
oui
pour
ou non.
Ou contre.
On est dans une situation extrêmement difficile. Il y a une crise économique et sociale qui se profile, qui a déjà commencé pour certains. Moi, à titre tout à fait personnel, je crois que c'est pas le moment de dire à des gens qui perdent leur emploi, qui perdent leur commerce, qui n'arrivent pas à aller travailler, et en plus, vous allez travailler plus longtemps, plus tard, etc. Donc, je pense que c'est peut-être pas le moment là tout de suite maintenant. Mais
non, mais d'ici 2022, oui, ça reste.
On n'est pas en 2022. On verra, franchement, bien malin qui peut dire où on en sera dans 6 mois. Donc,
alors,
on verra en 2022.
Pour ou contre allonger le temps de travail hebdomadaire pour résorber la dette liée au Covid ?
Contre.
Pour ou contre donner le nom de Valéry Giscard d'Estaing au musée d'Orsay ? Proposition de Rachida Dati, Valérie Pécresse.
pourquoi pas. Moi, j'aime bien le nom du musée d'Orsay, mais il faut voir ce que souhaite sa famille en termes d'hommages.
Pourquoi pas. Pour ou contre le maintien du concours Miss France?
Pour.
Pour ou contre le vote par correspondance aux élections régionales, Marine
Chapin? Je veux dire que Miss France, et je vous réponds juste après, Miss France, on a invité Sylvie Tellier à venir au ministère de l'Intérieur la semaine dernière, pour le 25 novembre, et on a fait une cérémonie où on a illuminé la place Beauvau en orange, en partenariat avec ONU Femmes, pour marquer l'engagement du ministère de l'Intérieur contre les violences envers les femmes. Et Miss France se sert de son rayonnement partout en France pour donner des informations aux jeunes femmes contre les violences sexistes et sexuelles. Donc je trouve ça positif. Et le vote par correspondance, pour l'instant plutôt contre, parce qu'on n'a rien pour l'instant qui prouve sa fiabilité et la garantie du secret du vote.
Et enfin, pour ou contre Marlène Schiappa, Premier ministre d'un éventuel second quinquennat d'Emmanuel Macron?
Contre.
Vous ne voulez pas être Premier ministre, même si ça vous est proposé?
Non, merci.
Ce ne serait pas une on n'a jamais eu qu'une femme en France Premier ministre.
Mais très bien, il y a plein de femmes de grands talents qui seraient fondées à devenir Premier ministre. Ce n'est pas mon ambition ni mon envie, et on ne me l'a pas proposé.
Alors, c'est une transition tout trouvée avec notre retour instantané. Vous savez que c'est une rubrique pour les 40 ans du Grand Jury. Écoutez Simone Veil.
Le Grand Jury, retour instantané.
Il y a une grande ambiguïté pour les femmes. C'est-à-dire qu'on les prend à un moment, on les propulse. Puis ensuite, on voudrait bien qu'elles se taisent. Et sois belle et tais-toi. Nous avons envie d'affirmer des idées. Nous avons envie de nous affirmer. Nous ne craignons pas de choquer. Nous avons peut-être moins d'ambition immédiate et plus l'envie de nous prononcer sur des problèmes de fond. Et ça gêne.
Alors, vous entendez Simone Veil, c'était en 1990. On sait ce qu'on lui donne. Et en même temps, elle dit... Bien qu'il y a une gêne, est-ce que cette gêne existe toujours, Amélie Carouer?
Oui, alors je reviens à Jean Castex. D'ailleurs, je reviens, mais vous ne l'avez jamais évoqué, hein, le Premier ministre, depuis le début
de cette
émission.
Si, si.
Ah bon, ça m'a échappé.
On a beaucoup entendu Emmanuel Macron, mais moins Jean
Castex.
C'était
pour ça, mais bon, bref, il semble être un peu contesté au sein du gouvernement pour des méthodes, discours assez francs. Il a été vu même et écrit qu'entre vous, il y a eu, eh bien, on va dire une prise de bec, pardonnez-moi l'expression, autour des lieux de culte le 25 novembre dernier. Ça ne change pas avec le temps, avec les années, Marlène Schiappa, toujours aussi difficile.
Bon, il y a deux sujets différents que vous me posez. Je ne veux pas faire de raccourcis qui laisseraient sous-entendre que le Premier ministre est sexiste ou traiterait mal les femmes. Je ne crois absolument pas que ce soit le cas. Mais en revanche, au-delà de la question du Premier ministre, avec lequel on a beaucoup travaillé après ce que vous évoquez, il a eu la gentillesse de me recevoir à Matignon pendant plus d'une heure. On a travaillé sur les questions de citoyenneté ensemble et ça s'est parfaitement bien passé.
Il s'est excusé
Mais enfin, ça, les termes de nos conversations privées vont rester privés.
Bon, votre sourire semble le dire, mais bon.
Peu importe, je crois, pour les gens qui nous regardent. Mais derrière, oui, c'est toujours difficile d'être une femme en politique. Il y a toujours énormément de sexisme. Il y a toujours des postes qui n'ont jamais été occupés par une femme. Présidente du Sénat, présidente de l'Assemblée nationale, présidente du Conseil constitutionnel.
Premier ministre.
Premier ministre, ça a été le cas une fois, mais il y a fort longtemps de cela. Il y a encore des décisions qui se prennent sans qu'il y ait une seule femme autour de la table. Oui, je crois qu'il est important de faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes. On a féminisé l'Assemblée nationale avec l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a maintenant 48% de femmes. C'était en 2017 et ce n'est pas suffisant. On est bientôt en 2021. Je pense qu'il faut qu'on continue ce travail de féminisation. Le fait qu'il y ait une secrétaire générale du gouvernement qui vienne d'être nommée, qui soit une femme, est positif. Le fait que la nouvelle patronne des CRS soit une femme est positif aussi. Pascale Regnault-Dubois, que je salue. Et je crois qu'il faut que maintenant ça prenne de l'ampleur. On est longtemps après Simone Veil. On ne peut pas stagner sur ces sujets-là.
Il y a aussi une nouvelle secrétaire d'État aux droits des femmes. Elisabeth Moreno, que vous ne mentionnez pas, mais qui est aussi aux manettes. Vous défendez bien évidemment la présence des femmes au gouvernement et dans la haute administration et dans la population de toute façon, globalement. Dans un portrait que vous consacre cette semaine, Le Monde Magazine, Marlène Schiappa, il est rapporté que le rôle privilégié qui est réservé aux hommes dans votre cabinet est surtout des vexations sur des femmes, sur leur physique, la tenue vestimentaire, avec pour certains un traumatisme persistant. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dans le fait ce que je dis, pas ce que je fais?
Pas du tout. D'abord, sur les directeurs de cabinet, moi j'ai eu essentiellement des femmes et une fois un homme.
Une femme qui est restée six mois et qui, dans le même journal, Marlène Schiappa a dit qu'il était compliqué de travailler avec...
Dans ce journal, elle dit qu'elle était très choquée parce que la première fois qu'elle m'a vue, j'avais une robe rose vaporeuse qui ressemblait à un mariage.
Pas choquée, Marie. Elle dit juste qu'elle a trouvé... je ne l'ai pas dit comme ça.
C'est ce qu'elle dit, mais peu importe, chacun peut faire les critiques qu'il a envie de faire. Quant au reste, ça a été démenti quelques heures après. Donc je vous invite à regarder les démentis, c'est évidemment absolument faux.
Et sur vos 13 conseillers, dans votre cabinet, Marine Schiappa, aujourd'hui, il y a seulement 4 femmes. C'est vrai, on posait, il y avait cette question tout à l'heure, la question en plus de cette jeune chercheuse qui disait, bah, il faut donner l'exemple. Pourquoi, dans votre cabinet, vous ne donnez pas l'exemple?
Alors d'abord, le chiffre n'est pas bon, première chose. Ensuite,
je suis allé sur votre site internet de votre cabinet aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il n'est pas mis à jour.
C'est très possible.
Je vous invite à
l'enlever. Première chose. Ensuite, moi, je vous l'ai dit, dans mon cabinet à l'égalité femmes-hommes, j'ai tenu à chaque fois à avoir des femmes qui soient directrices de cabinet. Et au ministère de l'Intérieur, c'est effectivement extrêmement difficile parce qu'il y a des codes. J'ai par exemple un colonel de gendarmerie dans mon cabinet. Il est difficile de trouver une femme colonel de gendarmerie qui soit disposée à vouloir. Il faut vouloir aussi venir travailler en cabinet ministériel, ce qui est difficile. Mais on travaille justement d'arrache-pied avec Gérald Darmanin et avec son cabinet. Et on a beaucoup de femmes. Ma chef de cabinet est une femme. Ma conseillère communication qui est présente aujourd'hui est une femme.
Donc c'est combien sur 13 alors rectifié pour nous?
Écoutez, honnêtement, là, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Bon. On peut vérifier, chacun regardera, mais c'est important de faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes. Et moi, je voudrais dire que j'ai aussi eu à cœur de faire nommer des personnes jeunes, et notamment mon directeur de cabinet, le seul qui a été homme directeur de cabinet. Il a été nommé très jeune, je crois à 26 ou 27 ans. C'est le plus jeune directeur de cabinet de la 5e République. Et je crois que c'est ça aussi le renouvellement de la République. Thomas Brisson, on le salue où qu'il soit et qu'il nous regarde.
Promotion des femmes et des jeunes, c'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous.
Bonjour
Marine Schiappa. Oui, beaucoup de réactions et notamment concernant votre rappel à l'ordre pour être arrivé en retard à l'Assemblée vendredi. Un retard de 6 minutes que vous avez expliqué par un enfant malade. Et il y a eu vraiment des avis très partagés des internautes. Guillaume, il vous défend. Vu l'absentéisme dans l'hémicycle, il écrit, c'est dommage de perdre du temps sur ça. Mais Carla, elle dénonce votre agressivité dans l'hémicycle. Et vous avez vous-même expliqué qu'être ministre, c'est surtout être un être humain avant tout. Est-ce qu'on peut vraiment être un être humain quand on est ministre et quand on est dans un lieu de pouvoir comme l'Assemblée nationale?
Moi, je veux dire plusieurs choses à cet égard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai créé le concept de plafond de mer, j'ai créé le pacte transparence crèche. J'ai créé et présidé pendant 10 ans un réseau qui s'appelait Maman Travail, qui était le premier réseau des mères actives et qui a eu vocation notamment à militer pour qu'on élargisse le congé maternité pour toutes les femmes, ce qui a été fait. Et moi, j'ai la chance, quand je finis la veille à 2h du matin au Sénat, je ne vois donc pas ma fille malade quand j'arrive chez moi. Le matin, j'apprends qu'elle est malade. Je prends les 10 minutes de toute maman ou de tout papa pour prendre sa température, lui demander comment elle va, voir ce qu'elle va faire de la journée.
C'était pas possible de vous faire remplacer pour qu'il y ait un ministre à l'heure à l'Assemblée ?
Mais je suis arrivée avec 6 minutes de retard et donc je termine mon explication parce que j'ai pris effectivement 10 à 12 minutes pour prendre des nouvelles de ma fille qui était malade et je préfère arriver 6 minutes en retard où que ce soit, même avec la reine d'Angleterre, et avoir pris la température de ma fille, lui avoir fait un bisou pour me préoccuper de ce qu'elle allait faire de sa journée en tant qu'enfant qui est malade, plutôt que d'arriver à l'heure et de me dire toute la journée que je n'ai même pas pris le temps d'aller faire un bisou à ma fille et de m'occuper d'elle, de la soigner, de lui donner ses médicaments. Première chose. Deuxième chose, moi, j'ai la chance de pouvoir répondre à l'Assemblée nationale. Et j'ai la chance de me dire, si on veut me faire perdre mon emploi pour ça, ainsi va la vie. Et j'ai la chance de pouvoir vous répondre ici. Mais je voudrais adresser un mot de solidarité à toutes les femmes, toutes les mères et tous les papas aussi, parce que j'ai eu beaucoup de messages de soutien de députés papas, qui parfois n'ont pas d'autre choix que d'arriver en retard parce qu'ils ont un enfant malade, parce qu'il y a une grève à l'école, parce qu'ils n'ont pas de nounou aujourd'hui et à qui on fait des remontrances au travail. Et je voudrais leur adresser un message de solidarité et leur dire que ça ne doit pas être tabou d'avoir des enfants. Mère Teresa disait, si vous voulez changer le monde, rentrez chez vous et prenez soin de votre famille. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait peut-être tous faire un petit peu plus. La solidarité et l'empathie, c'est pas que les discours, c'est aussi dans la vie concrète, et ça s'adresse pas, ça s'arrête pas à la porte de la vie politique.
Voilà, on avait bien fait de poser la question, puisque vous avez une longue explication. Autre question.
Oui, alors votre arrivée sur le réseau social chinois TikTok a été, là encore, largement commentée, et même moquée par certains internautes. Vous vous êtes justifié dans une deuxième vidéo, en expliquant que vous vouliez faire la promotion de la cause des femmes. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous rattraper justement après un message qui a été très mal perçu?
Ah non, pas du tout. Tout ça est prévu depuis le début. Nous, ce qu'on s'est dit avec mon équipe et notamment...
Donc le mauvais buzz est prévu, ça fait du buzz. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Il n'y a pas de mauvaise communication.
Avec mes deux conseillères femmes, Caroline et Amandine, qu'on salue également, on a fait un partenariat avec TikTok pour expliquer aux jeunes femmes comment elles peuvent déposer plainte quand elles sont victimes de violences. Et TikTok nous a demandé de faire une vidéo pour annoncer cette arrivée. Et on s'est dit, si on fait juste une vidéo pour dire bonjour, on fait un partenariat avec TikTok et le ministère de l'Intérieur, personne ne va le reprendre. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui soit un peu détourné, parodié, moqué, qui permette de faire connaître ce partenariat. Donc on a fait ça, ça a amené 560 000 personnes à regarder le dispositif d'aide pour que les femmes puissent
déposer. Donc c'était une bonne stratégie d'après vous?
En tout cas, c'est une stratégie qui a atteint les objectifs qu'on s'était donné.
Toute dernière question qui me parvient également, c'est sur une idée du contre-discours républicain que vous aviez annoncé. C'est pour quand ce discours, cette unité? Est-ce que c'est pour le début de l'année?
C'est pour maintenant. On a lancé les recrutements. Elle sera opérationnelle début 2021. Le préfet Christian Gravel a été nommé par le président de la République et elle accompagne notre stratégie de lutte contre le cyberislamisme, notamment le fait que nous ayons avec Gérald Darmanin ouvert Pharos 24 heures
Combien
sur 24.
Combien de personnes, très rapidement, cette unité?
J'ai pas le nombre en tête, je veux pas vous dire de bêtises à 10 près. 24 heures sur 24. Et cette semaine, j'ai installé pour la première fois un officier de gendarmerie à l'association Point de Contact pour travailler contre le cyberislamisme.
Merci beaucoup, Marianne Schiappa. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.